Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors, on vient d'évoquer la situation en République démocratique du Congo, une situation où la relation entre le pouvoir et les médias se tend, puisque le pays est plongé, comme nous l'a expliqué Camille Magnard, dans une nuit médiatique. La situation est évidemment tout autre en France, mais les médias sont aujourd'hui au cœur d'une polémique, puisque avec la crise des Gilets jaunes, les médias sont de plus en plus décriés. Dans certains rassemblements de Gilets jaunes, des journalistes ont été violemment pris à partie et pour tenter de comprendre les raisons de cette colère, pourquoi celle-ci se porte-t-elle sur les médias. Nous sommes en compagnie d'un sociologue, Arnaud Esquéré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous avez notamment publié « Le vertige des faits alternatifs », cette défiance vis-à-vis des médias, elle ne date pas du début de cette crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que cette crise, toutefois, change dans la perception et dans la relation que les Français ont noué avec leurs médias?
Il y a peut-être deux choses qu'on peut dire. La première, c'est qu'il y a toujours une difficulté depuis qu'il y a Internet et où chacun peut être l'auteur de sa propre information, à faire coïncider ou à faire en sorte que ce qu'on présente de soi soit cohérent avec ce que les journalistes présentent de vous, et donc qu'il soit la question de ou bien critique ou bien qu'il soit le porte-voix d'eux. Donc ça, c'est un problème qui en fait existe depuis plusieurs années. Mais je pense que pour les Gilets jaunes, la question spécifique qui se pose, c'est que, et qui pourrait se poser pas seulement pour les journalistes, mais aussi pour les sociologues, c'est que c'est un mouvement qui, pour les journalistes, il a besoin d'être premièrement cerné comme étant une catégorie, donc avec savoir est-ce qu'il y a qui est dedans, qui est dehors, est-ce qu'il y a des faux gilets jaunes, des vrais gilets jaunes. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des porte-paroles ou pas? Or, c'est un mouvement, en fait, qui n'a pas de porte-parole. Et donc ça, c'est un deuxième problème. Et troisièmement, il y a la question des cas, c'est-à-dire que vous avez l'idée que, ou bien de dégager un profil type, ou bien de dégager un événement type qui vaudrait pour tous les autres. Or, ce mouvement, en fait, il ne répond à aucune de ces trois contraintes, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre un gilet jaune, et donc la question de la fluctuation des limites, en fait, du groupe est très importante. Deuxièmement, on voit bien qu'il y a une difficulté, puisque tout le monde peut prendre la parole, dès qu'il y a un porte-parole, il est contesté, donc c'est toute la parole de chacun, et pas la parole de quelqu'un pour les autres. Et troisièmement, et ça c'est le problème encore plus grand, je pense, pour les médias, c'est que vous avez une multitude d'événements, on peut dire, qui se produisent en même temps, simultanément, et qui sont différents les uns des autres, puisque les groupes sont différents les uns les autres, et que les médias, on sélectionne seulement quelques-uns, et ceux qui sélectionnent, c'est-à-dire le profil type ou l'événement type pour les autres, ne vaut pas pour ceux qui sont montrés. Donc, je crois que c'est ça, en fait, ce caractère très atypique, en fait, de ce mouvement qui fait que les processus ou les attentes, en fait, qui sont celles ou les manières de travailler des journalistes, mais qu'on pourrait dire tout à fait aussi des sociologues, sont questionnés parce que les gens ne s'y retrouvent pas par rapport à la manière dont ils sont présentés.
Alors, on va reprendre ce que vous avez dit, Arnaud Esquéré, et il y a quand même un paradoxe là-dedans, parce qu'on pouvait se dire qu'avec l'apparition d'Internet, le rôle des grands médias allait être de moins en moins important. De fait, un grand nombre de gilets jaunes utilisent Facebook, il y a des Facebook Live. Bref, on peut se demander pourquoi, alors même qu'il y a aujourd'hui une désintermédiation, pour utiliser un terme un peu compliqué, c'est-à-dire le fait que finalement on n'a plus besoin de grands médias pour annoncer quelque chose, pour filmer quelque chose. Comment cela se fait-il que les grands médias, BFM TV par exemple, mais pas uniquement, aient vu son rôle contesté dans cet épisode des Gilets jaunes?
Non, mais Internet permet une chose qui est, ou bien en fait de mettre à disposition ou en public des récits de soi ou de filmer ce qui est autour de soi. Il peut aussi permettre des sites qui peuvent livrer un certain type de contenu, par exemple sur les Gilets jaunes. On a vu le site Lundi Matin qui a rendu compte d'un certain nombre d'actions ou d'événements ou de commentaires, etc. Les médias et les journalistes d'une manière générale, ou les grands médias, ils ont une particularité, c'est que d'abord, ils font des enquêtes, ou en tout cas, et donc ils ont le temps de les faire, en tout cas. Et deuxièmement, pour les médias d'information continue dont vous parlez, ils peuvent couvrir en permanence avec un certain nombre de moyens. Donc le rôle qu'ils jouent, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas des collectifs qui se sont créés, ou les collectifs qui se sont créés se sont devenus des sortes de médias alternatifs, mais il n'y a pas l'équivalent du rôle joué par les grands médias aujourd'hui par d'autres gens.
Parmi les critiques qui ont été adressées à ce que vous appelez les grands médias, il a été notamment question de la sélection des faits portés à la connaissance du public, notamment une trop grande importance accordée aux casseurs. Ça, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Et il est question donc de médias qui se sont surtout intéressés aux violences et pas assez aux manifestations pacifiques. Qu'en pensez-vous, Arnaud Esquéré?
Oui, mais ça, on revient à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire pour faire un reportage ou dans les médias, vous avez besoin de sélectionner un événement qui vaut pour les autres. Donc, il se trouve que ce mouvement des Gilets jaunes, il est dans ses divers composants, extrêmement divers et qu'une multitude d'événements se produisent en même temps. Donc, la sélection, or, le temps d'antenne ou le temps ou l'article, en fait, ne peut sélectionner qu'un seul événement. Il ne montre qu'un seul événement, il ne va pas montrer plusieurs événements en même temps. Donc, l'événement qu'il montre est supposé valoir pour tous les autres. Or, comme il y a une multitude d'événements qui ne sont pas coordonnés, c'est pas comme si vous voyez comme un syndicat qui décide de manifester et toutes les manifestations sont les mêmes parce que les mots d'ordre de la manifestation sont les mêmes parce qu'ils ont été donnés par un syndicat. Donc, vous pouvez montrer une manifestation à Paris, elle vaut pour toutes les manifestations dans toute la France. Là, ce n'est pas le cas puisque chaque mouvement est très différent.
L'autre remarque qui a été faite, elle porte sur le dénombrement des manifestants. Alors là, il est suggéré que beaucoup de médias auraient minoré le nombre de gilets jaunes qui étaient présents durant les différents actes de ce mouvement.
Mais ça, c'est une critique qui est tout à fait, compréhensible et qu'on peut tout à fait entendre, puisque déjà, quand il y a des manifestations, on sait qu'il y a déjà deux manières de compter les manifestants. Les manifestants d'après les syndicats et les manifestants d'après la police ou le ministère de l'Intérieur. Donc, et qu'en général, c'est du simple au double. Il se trouve que là, c'est un mouvement où chacun peut mettre un gilet jaune, on peut le mettre 3 minutes, on peut le mettre pendant toute une après-midi ou toute une journée, ou le garder pendant plusieurs semaines. Donc il y a une sorte de flottement, si vous voulez, sur les contours, qui fait que c'est un mouvement extrêmement difficile à quantifier. Donc il faut partir du fait que on a du mal à quantifier et qu'il y a une marge énorme, en fait, et qu'on ne sait pas combien ils sont. Voilà, c'est ça le...
Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dire, par exemple, on ne sait pas? Parce que c'est possible aussi de dire que le dénombrement tellement compliqué que...
Il y a certainement une précaution d'usage tout le temps à prendre par rapport au fait de donner des chiffres concernant les gilets jaunes, en effet. Parce que si vous êtes dans la foule, vous ne savez pas... De toute manière, c'est un mouvement effectivement où on ne sait pas très bien combien de personnes participent au mouvement.
L'autre demande est finalement de... considérer que les journalistes s'intéressent insuffisamment aux faits, c'est-à-dire que leur rôle devrait être, pourrait être, je mets évidemment ça au conditionnel, Arnaud Esquéré, pourrait être de présenter quelque chose qui relèverait des faits, avec les guillemets qui s'imposent, et en quelque sorte de se retrancher derrière ces faits, de ne pas apparaître, de ne pas faire de commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les faits, on peut les livrer, mais vous pouvez, il y a une manière de les présenter. Or, dans la manière de les présenter, vous êtes bien obligé de les mettre en récit. Sinon, vous pouvez juste donner une série de chiffres. C'est un mouvement dont on vient de dire qu'il était difficilement chiffrable.
Pour les chiffres, effectivement, donc, c'est encore plus compliqué.
Donc, vous pouvez pas donner une série de chiffres ou de statistiques concernant ce mouvement. Donc, l'autre possibilité pour rendre compte de ce mouvement, c'est de livrer une série de faits. Mais les faits, il faut bien les présenter. Et la présentation des faits, elle prend la forme de récits en général.
Mais est-ce que le récit a pris trop de place? Est-ce qu'il prend trop de place aujourd'hui dans les médias, selon vous?
Non, enfin, c'est-à-dire, à partir du moment où on apprend quelque chose, la question, c'est pas est-ce que le récit prend trop de place ou pas, c'est est-ce qu'on apprend quelque chose par ce récit ou pas, et comment est-ce qu'il est réalisé, et quelles sont les précautions pour le réaliser, ou les procédures pour le réaliser. Mais c'est une manière comme une autre d'apprendre quelque chose. C'est comme si vous disiez les historiens utilisent trop le récit, il faudrait qu'ils présentent que des données chiffrées. Le récit historique permet d'apprendre quelque chose de l'histoire, de la même manière que si vous avez, comme il y a eu dans l'école des annales, les présentations d'évolution de la courbe du prix du pain pendant plusieurs siècles. Ça vous apprend quelque chose, mais c'est un peu sec.
Oui, mais par ailleurs, le fait de savoir ce qu'est un fait, vous qui êtes sociologue et qui vous êtes intéressé aux médias, Arnaud Esquéré, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'est un fait. Il n'y a pas de science naturelle du journalisme, et toutes ces choses-là sont des choses construites.
Elles sont construites, oui, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire l'enquête ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut vérifier l'information ou recouper les informations pour établir que c'est un fait avéré, qu'on peut tenir pour vrai ? Ça, c'est une autre question, mais ça demande du temps du travail, tout simplement.
Le fait qu'il y aurait, parce que là aussi, lorsqu'on oppose les faits au récit, il y a un implicite, et cet implicite, c'est la présence d'une idéologie. Alors, une idéologie qui serait commune aux journalistes. Est-ce que ce type de critique est une critique qui porte, selon vous ?
Mais une idéologie, c'est-à-dire une idéologie...
Une idéologie, alors, qui pourrait être, par exemple, une idéologie au service du gouvernement, une idéologie qui serait particulièrement tolérante à l'égard de la police ou à l'égard des violences policières.
Vous pouvez avoir de l'idéologie partout, mais enfin, de toute manière, il n'y a pas... les médias, d'abord, il y a toutes sortes de médias, ils rendent compte des événements de manière différente, ils donnent des récits qui sont différents. Il n'y a pas une idéologie de tous les médias. Si vous voulez me faire dire qu'il y a un système médiatique qui pense la même chose et qui dit la même chose, non.
Je veux avoir votre opinion là-dessus, mais disons que la question qui se pose à partir du moment où le problème, c'est d'être capable ou non de mettre en récit cet épisode-là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut s'opposer à un récit qui soit, j'allais dire, accepté par tous les protagonistes de ce mouvement, mais enfin, en tout cas, par les Gilets jaunes.
Non, mais c'est un mouvement avec des composantes très nombreuses, qui est très difficile à cerner, et y compris, d'ailleurs, il y a des sociologues qui eux-mêmes s'intéressent à ce mouvement, et on trouve des choses très différentes. Donc, à part le fait que sauf si on remonte aux origines, c'est-à-dire au point de départ qui concerne la question d'une taxe
les produits pétroliers.
Sur les produits pétroliers. Mais en dehors de ça, vous avez un ensemble de revendications qui sont extrêmement diverses, avec des, si vous prenez les écrits qu'on peut voir, moi à Paris, j'ai pu repérer un certain nombre d'écrits qui étaient inscrits sur des murs, par exemple, effacés très vite. Bon, c'est des écrits qui font référence, je ne sais pas, à la Révolution, à 1793, à
1793, c'est une partie particulière de la Révolution.
À une partie particulière de la Révolution, absolument.
Donc, qui faisait référence à la Terreur ?
Plutôt à la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Ces écrits, ils sont là aussi. Donc, ils font aussi partie du mouvement des Gilets jaunes. Ça veut pas dire que ça vaut pour tous les Gilets jaunes, mais simplement ils sont présents dans leur multiplicité, dans leur différence. Et donc la question, c'est que nous, on est habitués à devoir sélectionner pour cadrer, pour dire ça c'est des vrais gilets jaunes, ça c'est des faux gilets jaunes, donc ça on va les exclure, on va faire des catégories, on va dire il y a un profil type, donc on va dire c'est quelqu'un qui est plutôt rural, classe moyenne, etc. Il se trouve que... et donc on fait des sélections pour obtenir ce type de réduction. Mais en plus de ça, en général, ces sélections sont appuyées par le fait qu'il y a des porte-paroles. Et là, on n'a pas tout ça.
Il y a quand même, en tout cas, des personnages qui sont visibles. Alors, Éric Drouet fait partie de ces gens qui sont aujourd'hui très visibles et dont on a l'impression qu'ils servent non pas de chef au mouvement, parce que là, ce serait compliqué de donner un point de vue là-dessus, mais en tout cas, ce sont des meneurs pour une partie des Gilets jaunes.
Il y a des gens qui ont émergé, qui sont plus réputés que d'autres, et dont on voit bien tout de suite que pour les médias notamment, c'est très pratique parce que tout d'un coup, ils ont des interlocuteurs qui leur manquaient et qu'on les fait parler au nom des autres. Donc on retombe dans des schémas plus classiques. Mais je crois que ce mouvement est quelque chose de complètement atypique.
Et c'est donc le fait qu'il soit atypique, ce mouvement, est pour vous l'une des raisons pour lesquelles la colère, la défiance vis-à-vis de la peinture qui est faite de ce mouvement est si aiguë.
Oui. Ça, je pense vraiment que l'absence de frontières, de qui est dedans, qui est dehors, le fait qu'il n'y ait pas de porte-parole légitime, en tout cas, le fait que on ne sache pas très bien, on ne sache pas compter, le fait que on ne sache pas quel est l'événement typique ou quel est le profil typique, l'ensemble de ces éléments font qu'il y a une tension très grande entre la sélection qui est opérée par des journalistes pour justement rabattre sur des catégories connues, sur des porte-paroles qui diraient la parole des autres, sur des profils types, etc. Et le fait que ceux qui participent au mouvement ne se reconnaissent pas dans cette sélection qui est opérée.
Mais alors, dans ce cas-là, ce désarroi des journalistes, ou en tout cas ce qui devrait être leur désarroi, puisque vous dites que c'est difficile à catégoriser, renvoie aussi à ce qui pourrait être le désarroi des politiques.
C'est un désarroi des politiques, certainement. C'est aussi un désarroi des syndicats, parce que c'est absolument pas la manière de fonctionner ni des politiques ni des syndicats. Et c'est aussi une interrogation, pour des sociologues, par exemple, qui étudient ce mouvement, c'est aussi une question, un questionnement, parce que comment est-ce qu'on saisit ce type de mouvement?
Justement, on va continuer à en discuter avec vous, Arnaud Esquéré. Je rappelle que vous avez publié Le Vertige des faits alternatifs. On verra quelles ont été les catégories faites pour saisir ce mouvement. Là, par exemple, les sondages qui ont eu un rôle aussi en tant que sociologue. Vous avez un regard sur les sondages. Vous serez rejoint par Edvy Plenel, cofondateur et président de Mediapart. Et on verra comment les médias ont joué leur rôle, comment ils auraient pu également le jouer durant cette crise des Gilets jaunes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Nous retrouvons Arnaud Esquéré. Bonjour Arnaud Esquéré. Vous êtes sociologue, à côté de vous, Edvy Plenel, que je salue. Edvy Plenel, vous êtes cofondateur et président de Mediapart. Vous avez notamment publié un livre intitulé « La valeur de l'information », puisque Sophie Delpont évoquait dans son billet tout d'abord la deuxième affaire Benalla, et puis peut-être une information qui a un lien ou pas avec cette seconde affaire Benalla, autrement dit avec la possession par Alexandre Benalla d'un passeport diplomatique, le départ de Sylvain Faure, qui était le monsieur communication de l'Élysée. Selon vous, est-ce que ça a un lien?
Oui, bien sûr. Deux de chute. Bruno Roger Petit, qui était porte-parole, ancien chroniqueur, éditorialiste, avait été recruté pour faire la communication de l'Élysée. Je vous rappelle qu'il s'est crashé au début de l'affaire Benalla, quand il a menti grossièrement avant que l'information judiciaire soit ouverte et que Benalla soit officiellement licencié. Sylvain Faure a été convié pour remplacer. Tout ça se passait l'été dernier et ça fait à peine 4 mois. Et Sylvain Faure, qui je crois est un honnête homme, ne peut pas assumer plus longtemps, je le pense, de mentir, tout simplement, car nous n'en sommes pas à la deuxième, nous sommes déjà à la troisième affaire Benalla. Il n'y avait soi-disant pas de contact entre l'Élysée et Monsieur Benalla. Nous avons révélé qu'il continuait à avoir lieu directement entre le président de la République et cet homme mis en examen pour violence volontaire. L'Élysée n'a pu que le confirmer en prétendant qu'il ne s'agissait que de 2 messages cet été. Nous allons voir la suite et nous verrons qu'il ne s'agit pas que de 2 messages cet été.
C'est-à-dire ?
Eh bien, vous lisez Mediapart dans ces jours prochains.
Je lis Mediapart,
mais c'est à venir. C'est à venir. Quand c'est prêt, c'est prêt.
Et donc,
une enquête, c'est du travail.
Juste pour les auditeurs qui auraient été, par exemple, pendant les fêtes, un peu distraits, l'Élysée. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il y avait eu effectivement des échanges, et semble-t-il des échanges peu importants. C'était autre chose pour vous, Edwy Plenel?
Mais vous savez, tout ça, tout le monde l'a comme le nez au milieu de la figure. Monsieur Benalla est protégé à une forme d'indulgence, c'est d'ailleurs le mot qu'a revendiqué le président de la République début novembre, par la présidence de la République.
Pourquoi?
C'est la bonne question. Nous documentons le comment. Nous montrons que, bien que cet homme aurait dû quitter la présidence de la République dès le 2 mai, je rappelle que les faits initiaux sont des faits de violence volontaire contre des opposants politiques, contre des gens qui exerçaient un droit fondamental dans notre pays, qui est le droit de manifester ses opinions. Normalement, quelqu'un qui met en péril l'image d'une présidence de la République comme cela doit quitter le lendemain. Non seulement on étouffe l'affaire, et non seulement on ne fonctionne que grâce aux révélations de presse, car à chaque fois ce sont les révélations de presse qui font avancer les choses, mais en plus on le protège, on le laisse circuler avec des passeports diplomatiques, on maintient la relation avec lui, on le laisse faire toutes sortes d'affaires dans le monde de la France-Afrique avec l'aura de la présidence de la République derrière lui. Et donc il y a derrière cela un fait divers.
Ça, l'Élysée l'année, mais le pourquoi, alors vous faites une distinction entre le comment et le pourquoi Edwy Plenel. Le pourquoi, il est métaphysique.
Mais justement, c'est là, on en parlera tout à l'heure sur le travail des médias. Notre travail, c'est d'abord de documenter des faits. Ensuite viendra le temps de l'analyse. Il faut d'abord faire le puzzle pour pouvoir l'interpréter. Donc le puzzle que nous faisons très modestement avec ce travail de recoupement de sources. On croit que c'est facile. Non, il n'y a pas quelqu'un qui nous téléphone et qui nous donne les passeports de Benalla. Il faut travailler. Il faut s'affronter au démenti de l'Élysée. Nous avons eu des démentis sur le fait qu'il n'y avait pas de relation entre la présidence de la République et de M. Benalla. Et quand finalement nous le faisons, nous obtenons que M. Benalla le dit, l'Élysée finalement est obligée de le reconnaître. Donc qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, nous sommes au cœur de ce que vous commenciez à traiter. L'affaire Benalla est en effet un fait divers qui devient une affaire d'État. Quelle affaire d'État? Le fait que l'État couvre quelqu'un qui est accusé de délit parce qu'il est lié à la présidence de la République, on est au cœur du sujet. Monsieur Macron s'est fait élire sur une demande de changement démocratique profond. Il n'en tient pas compte. Il continue à ne pas en tenir compte. L'ingénieur parlait d'or tout à l'heure. Nous avons fait les vœux, nous avons toujours un citoyen ou une citoyenne qui fait les vœux sur Mediapart à la place du président de la République, car la République nous appartient à tous. C'est un youtubeur, Vincent Verza, qui accompagne l'affaire du siècle, la grande pétition sur la course contre la montre par rapport au changement climatique, qui les a faites. Et il dit, ceux qui rendent impossible une révolution pacifique rendront inévitable une révolution violente. Cette demande démocratique qui sourd du pays de façon confuse, de façon virulente, de façon diverse. Si on n'y répond pas, nous irons à la catastrophe. Et la catastrophe, c'est ce pouvoir d'un seul confisquant la volonté de tous. C'est ça la clé. Et tant que M. Macron ou d'autres, car ses prédécesseurs ne l'ont pas compris non plus, eh bien la catastrophe continuera à arriver.
La violence, elle n'a pas épargné notre profession, celle des journalistes, Edwy Plenel. Est-ce que vous comprenez pourquoi les journalistes ont été victimes de tant de défiance, d'actes de violence pour certains qui suivaient les manifestations, également d'insultes, de raccourcis? Bref, est-ce que vous comprenez le procès qui est fait à notre profession?
Alors d'abord, je voudrais poser un point de méthode. Comme dans toute question, la globalisation, l'essentialisation, l'amalgame est à la fois une stupidité intellectuelle et un désastre politique. De la même manière que ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption que tous les élus sont corrompus, de la même manière c'est pas parce qu'il y a un terrorisme qui se réclame de l'islam que tous les musulmans sont terroristes, et bien de la même manière c'est pas parce qu'il y a des journalistes qui sont critiquables que l'ensemble des travailleurs de l'information doivent être jetés à la poubelle. La haine du journalisme journalisme, la haine du journalisme est une pédagogie antidémocratique. En revanche, la critique du journalisme, elle est nécessaire, elle est utile, et les journalistes même, car nous sommes un champ de bataille entre nous, la pratiquons. Bien sûr que je la comprends. Je la comprends parce qu'il y a derrière deux questions. Il y a la question démocratique dont on parlait, c'est-à-dire c'est l'ambiguïté du mot représentation. On en veut à ceux qui nous représentent, ces élus qui ne sont pas au rendez-vous de notre demande, qui confisquent. Et je rappelle pour Monsieur Macron, car c'est une parole que certains journalistes de gouvernement, comme j'aime dire, n'aime pas entendre. Monsieur Macron, il a 18% des inscrits au premier tour. Il considère qu'ayant été élu face à l'extrême droite, il est possesseur du tout. Eh bien non. Et il n'a pas tenu compte de la diversité. Donc il y a cette critique d'une représentation que nous renvoyons. Les médias représentent. Mais il y a un deuxième aspect, et j'en termine, qui est au fond ce journalisme de commentaires, ce journalisme d'opinion, ce journalisme de blablabla, ce journalisme de talk show. Et les gens ont le sentiment que leur réalité n'est pas présente. Ils ne critiquent pas les reportages, les gens. Ils ne critiquent pas leur travail d'enquête. Ils ne critiquent pas les journalistes qui sont au rendez-vous de l'utilité démocratique. Notre utilité démocratique, c'est apporter des informations. L'opinion, elle appartient à tout le monde. Et avec les réseaux sociaux, pour le meilleur comme pour le pire.
Mais le journaliste de commentaire, comme vous l'appelez, Guy Plenel, il a aussi ses lettres de noblesse. Mais le commentaire, ça n'est pas nécessairement
du blabla. Mais ça ne nous appartient plus. Avec la révolution technologique, tout le monde a la possibilité de le faire. La liberté d'opinion,
y compris aussi les journalistes.
Mais c'est ce que je vous dis, la liberté d'opinion n'est pas le propre du journalisme. La liberté d'opinion, elle appartient à tout citoyen. L'ingénieur qui a parlé tout à l'heure est peut-être beaucoup plus pertinent que certains journalistes. Quelqu'un qui parle de sa réalité d'agriculteur, de sa réalité d'industriel, de sa réalité d'ouvrier. Encore une fois, nous avons des opinions, mais ce n'est pas le propre de notre profession. S'il y a un métier...
Sauf que lorsque vous parlez de votre réalité, vous pouvez perdre, je ne dis pas que vous le perdez nécessairement, mais vous pouvez perdre par exemple le sens de l'universel, le fait d'avoir...
Je vous redis que nous défendons un métier, nous sommes des travailleurs de l'information. Le métier, pour nous, c'est s'occuper de ce que Hannah Arendt appelait des vérités de fait, qu'elles concernent le présent ou le passé. C'est ça notre travail. Le reste, nous sommes des citoyens.
Mais excusez-moi,
je termine ma phrase, parce que c'est le cœur du sujet. Il y a aujourd'hui, avec l'explosion médiatique, beaucoup de gens qui sont dans la sphère journalistique, mais qui n'ont jamais appris ce métier qui est de produire une information. Beaucoup de gens que j'entends je dis qu'il y a beaucoup de commentateurs dont je ne connais pas les informations qu'ils aient jamais produites dans leur vie. Encore une fois, notre métier, notre légitimité auprès du public, on peut détester Mediapart, on peut ne pas aimer l'orientation de Mediapart, on peut trouver que ce que j'ai fait depuis 40 ans, moi personnellement, on ne m'aime pas. En revanche, on peut me juger sur est-ce que j'ai produit des informations utiles à notre vie démocratique. C'est ça, un collectif de journalistes, c'est ça. Le reste, nous sommes aujourd'hui tous des médias participatifs. Donc l'opinion, elle appartient à tout le monde.
Mais est-ce que vous n'êtes pas juste en train de rabattre la définition du journalisme à votre pratique du journalisme, pratique qui est évidemment respectable, mais
à sa légitimité, encore une fois, je vous le répète,
parce que
vous m'interrogez.
La production de faits n'est pas la seule vocation du journalisme.
Si, mais je vous le répète, mais le journaliste de commentaires, c'est aussi les sociologues, c'est aussi le savoir
d'ailleurs.
Je vous le redis. Encore une fois, vous m'interrogez sur une profession, sur un métier. Vous m'interrogez sur la crise de confiance de cette profession. Je vous réponds, faisons notre travail. Et notre travail, c'est produire des informations. Et la confiance sera là. Mediapart, excusez-moi, de manière totalement inattendue, totalement numérique, totalement payant, a conquis comment son image, son succès. Là-dessus.
Le conteste.
Ben oui, mais c'est bien la preuve que c'est ça qu'il faut faire.
Non, c'est la preuve que c'est ce que vous faites.
Pourquoi voudriez-vous réduire la pluralité? Mais parce que c'est ça le journalisme. Je ne connais pas d'autres.
Mais Mediapart, ça n'est pas le journalisme.
C'est une forme de journalisme. Vous ne m'écoutez pas. Je ne connais pas d'autres définitions du journalisme que produire des informations d'intérêt public.
Arnaud Esquéré.
Et je dois dire que la question qui est posée se pose aussi aux sociologues. C'est-à-dire, il y a aussi le sociologue d'opinion et le sociologue qui mène des enquêtes. Et je pense pour ma part qu'il faut mener des enquêtes et qu'effectivement, mener des enquêtes, ça demande du travail. Parce qu'il faut apporter, justement, quelque chose, aller chercher quelque chose qu'on ne sait pas. Et ça, il faut travailler pour le faire. Alors, ça peut être... Effectivement, on est sollicité souvent comme sociologue pour donner notre opinion. Donc, en général... on s'appuie sur les travaux de journalistes qui ont enquêté, parce que c'est sur l'actualité. Évidemment, il n'y a jamais d'enquête de sociologue qui est suffisamment rapide pour pouvoir savoir ce qu'il en est de l'actualité. Donc on s'appuie sur les travaux de journalistes et ça donne du sociologue d'opinion. Je ne souscris pas à cette conception du sociologue. Je suis effectivement pour le temps de l'enquête. Malheureusement, c'est un temps qui est toujours un peu long. Ce travail là, il est irremplaçable et insubstituable. C'est-à-dire, c'est bien parce que c'est un métier de le faire et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire.
Ouais. Moi, je vous trouve tous les deux très optimistes dans l'idée que l'on peut mettre de côté ses opinions. Il y a par exemple une tribune de Jean-François Kahn ce matin. Jean-François Kahn est un journaliste qui a eu une longue carrière. Certains diraient même que ça a été un grand patron de presse et de Vie Planète. Je ne pense pas que vous direz le contraire. Et Jean-François Kahn dit finalement que les journalistes dans la crise des Gilets jaunes ont été... prompt à escamoter un certain nombre de faits. Alors là, on n'est pas dans le domaine de l'opinion, on est dans le domaine de l'honnêteté. Finalement, ce que l'on peut demander aux journalistes, c'est d'être honnête, c'est-à-dire de dire tout ce qu'ils voient et de ne pas croire en leurs idées ou en leur idéologie. Est-ce que ça n'est pas ça, tout d'abord, le rôle de notre profession? Et est-ce que ce rôle-là a été bafoué dans la crise des Gilets jaunes?
Mais écoutez, c'est très simple. Quand il y a l'inattendu, l'imprévu, qui est le sel de ce métier, c'est-à-dire l'événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller enquêter, faire du reportage. Sur les Gilets jaunes, quelle est la colère? La colère, c'est tous ces commentaires d'en haut par rapport à une réalité que des gens n'allaient pas voir ou qu'ils résumaient à des incidents, qu'ils résumaient à des images qu'ils passaient en boucle.
Il y a trop de casseurs, c'est ce que vous voulez dire.
Qu'est-ce que nous avons fait face aux Gilets jaunes? Nous avons donné la priorité à des reportages. Pas un reportage d'un jour, des reportages de plusieurs jours. Bien avant que la presse traditionnelle les fasse. Nous avons été sur place. Nous avons regardé. Nous avons écouté. Et qu'est-ce qu'a rendu nos reportages une réalité autrement diverse, autrement plurielle, autrement moins caricaturale que celle qui était donnée par les médias en boucle. C'est très important ça. Et je vous redis parce que je veux vraiment insister parce que j'entends bien que vous ne voulez pas vous-même, Guillaume Herner, accepter ce que j'essaye de vous dire. Aujourd'hui, encore une fois, si nous, journalistes, nous ne nous rabattons pas sur le cœur de notre métier, eh bien, nous serons débordés car, en effet, c'est ce que constate tout le monde. J'ai l'arme des réseaux sociaux. Je peux exprimer directement mon opinion. Je peux lancer mon appel. Je peux tenir mon blog. Encore une fois, le journalisme, il est remis à sa place. Sa place, c'est l'enquête, c'est le reportage, c'est le terrain. Qu'il rende compte du réel d'abord. Qu'il fasse ce travail. Et c'est ça le cœur de notre légitimité. Elle est là.
On va écouter Éric Drouet, l'un des gilets jaunes aujourd'hui les plus visibles, s'exprimer sur ce qu'il pense des médias.
On a vu aux infos l'incident qu'il y a eu avec les motards et encore une partie de l'incident. Et on n'a pas montré tout le reste de la journée qui s'est excellemment bien passé tout au long de la journée. La marche a été très bien. On est passé dans des petites rues avec les magasins ouverts, de nombreuses voitures. Il ne s'est passé aucun incident et on était des milliers dans les rues et ça s'est très très bien passé. Mais ça, ils n'ont pas voulu le montrer et ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe sur le terrain en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est organisé justement pour minimiser le mouvement et pour que l'opinion publique en fait s'éteigne au fur et à mesure et pas relayer vraiment que le mouvement est en train de grandir plutôt que rétrécir. Et enfin nous qui sommes sur le terrain, on le voit comme ça, ça grandit de jour en jour et complètement l'inverse que les infos retransmettent à la télé en fait. Quand on voit sur les Champs-Élysées que le seul endroit qui est gazé ou matraqué, c'est l'endroit où il y a les médias sur le toit et le reste des champs se passe très bien. Donc oui, c'est sûr que c'est voulu. Hein.
Il va falloir jouer des médias, en fait, il va falloir qu'ils retranscrivent des infos qu'ils n'auront pas le choix et qu'ils les feront chier. C'est tout. Il va falloir la jouer comme ça.
Deux extraits d'un discours d'Éric Drouet. Votre réaction, Eddy?
D'abord, sur les faits, en effet, sur les violences policières, prenez l'affaire des motards. L'affaire des motards, il y a eu tout de suite la focalisation sur les violences des manifestants contre les motards et l'oubli qu'avant, ces motards ont envoyé ces grenades très dangereuses, ces grenades explosives, et qu'ils ont d'abord eux-mêmes agressé ces manifestants alors qu'ils n'étaient que quatre motards. C'est-à-dire qu'en termes de maintien de l'ordre, et un sociologue des maintiens de l'ordre comme Fabien Jobard le confirmerait, ils ont commis une erreur. Je voudrais insister sur les violences policières. C'est sur les réseaux sociaux et aussi sur des journaux participatifs comme Mediapart que vous avez le plus d'informations. Et les grands médias n'ont pas fait ce travail. David Dufresne, qui est journaliste sur Twitter, fait en permanence sur sa timeline, comme on dit, les alertes à Beauvau sur les violences policières. Il s'est passé sur le maintien de l'ordre des choses scandaleuses. Excusez-moi. Je dis juste que ici, France Culture, on est dans un endroit de qualité. Je parle des médias mainstream, dominants, etc. C'est un événement inouï. Rappelez-vous. Et de ce point de vue, je voudrais insister sur la question sociale. Au temps de mai 68, les médias nouveaux, parce que c'était les étudiants, parce que c'était un peu le même milieu social, Europe 1, RTL, se focalisaient sur les violences policières, pas sur les barricades, pas sur les violences des manifestants. Là, il y a vis-à-vis de ce peuple aussi une façon de les regarder d'en haut, classe laborieuse, classe dangereuse. Quand, pour terminer, ce que dit cette personne tout à l'heure, qui est un gilet jaune parmi d'autres, car ils n'ont pas de représentants proclamés, est une chose importante. Tout mouvement social a raison de dire « je vais essayer d'imposer mon agenda aux médias ».
Bon,
je suis acteur du débat public.
La deuxième partie, donc c'est un autre extrait que l'on a pris dans un Facebook Live. Là, c'est un propos qui est beaucoup plus dur à l'égard des médias, puisque Éric Drouet dit en substance « les médias seront obligés de dire ce qu'on leur dira de dire ».
Mais je veux dire, encore une fois, le champ médiatique est un champ de débat et de bataille.
Lui, apparemment, n'est pas particulièrement propice au débat.
Il dit qu'il a des questions qu'il veut mettre sur la table.
Mais elles ont été mises sur la table.
Eux, ils ont le droit de dire qu'elles ont été insuffisamment mises sur la table. Il faut les écouter. Il faut entendre ce qui bouillonne. Et encore une fois, il faut montrer leur diversité. Il n'y a pas un leader des Gilets jaunes. Il y a une diversité politique, il y a des militants, aucune force politique, et beaucoup de suivisme dans les forces politiques par rapport à ça, ou d'attentisme, n'est propriétaire des Gilets jaunes. Vous savez, quand Mediapart, je redis, pour vous donner cela, vous croyez que nous, on ne se bat pas pour mettre à l'agenda des autres médias des questions? Vous ne croyez que l'affaire libyenne, ignorée pendant tant d'années, Mediapart s'est pas battu? Non, mais pas au tout début. Excusez-moi. Pas en 2011, pas en 2012. Guillaume Erner. Ne vous sentez pas concerné. Ne vous sentez pas. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les médias, c'est logiquement un champ de bataille, y compris entre médias. Le pluralisme des médias est une valeur constitutionnelle.
Mais Edwy Plenel, est-ce que je ne suis pas sûr qu'Éric Drouet, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, soit favorable, comment dirais-je, à un bras de fer avec les médias? Il veut, à mon avis, si je le comprends bien, un exercice qui n'a rien à voir avec l'exercice journalistique.
Je ne sais pas, moi j'ai pas entendu ça.
Quelqu'un qui, si vous voulez, on peut réentendre le deuxième extrait, mais moi je pense qu'on a
qu'il veut imposer des questions à l'agenda médiatique.
Mais non, s'il s'agissait de mettre... D'abord, je ne vois pas très bien quelles sont les questions. Peut-être est-ce que je vais commettre une erreur, mais en tout cas, je ne vois pas très bien quelles sont les questions qui ont été au cœur des revendications des Gilets jaunes, qui n'ont pas été retranscrites dans les médias. En tout cas, nous ici...
Excusez-moi, la question de la vie chère n'était pas du tout au cœur du débat médiatique.
Non, mais dès lors que le mouvement s'est créé...
Ben c'est bien ce que je veux dire. Le mouvement des Gilets jaunes pose
le 10 octobre, sur France Culture, on a fait quelque chose sur le prix du diesel, par
sincèrement,
exemple.
On n'est pas en train de faire le procès de France Culture. On est sur un débat général. Donc, excusez-moi, on est sur l'idée, est-ce que, encore une fois, des questions ont été portées par ce mouvement social qui n'était pas au cœur du débat public? Oui, la question de la vie chère, la question de l'injustice fiscale et la question démocratique. Et c'est une bonne chose. Et il va falloir continuer. C'est sur les réseaux sociaux, Guillaume Erner, par la bouche d'un journaliste, vous êtes partenaire, j'ai vu, d'Alternatives économiques, que Guillaume Duval a dit cette semaine que le premier producteur de fake news, il n'est pas gilet jaune. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il a dit à son intervention présidentielle que nous dépensions plus de la moitié que ce que nous produisions pour le fonctionnement et l'investissement public. C'est faux. C'est un quart. C'est un quart. Alternative économique a fait 4 tweets pour dire zéro pointé au président de la République. Vous avez entendu ça dans les commentaires? Oh là là, est-ce qu'il va reprendre la main? Est-ce qu'il était bien son image?
Ça, les communicants et tout.
Mais c'est pas du journalisme, ça. Le journalisme, c'est ce qu'a fait Guillaume Duval d'Alternative économique, comme ce que fait David Dufresne sur les violences policières, et comme ce que nous faisons. Les faits, la vérité des faits.
Arnaud Esquéré.
Non mais je rejoins le point de vue de Plenel, d'Edwy Plenel sur la question de d'aller chercher la vérité des faits. Après dans le témoignage que vous avez fait passer à l'antenne, il y a une question qui est posée, qui est que quand on est journaliste ou quand on est sociologue, quand la manière dont on rencontre des choses, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un, donc on s'adresse à des lecteurs, on s'adresse à des spectateurs, etc. Et donc, il faut bien retenir l'attention de la personne à qui on s'adresse. Et quand on s'adresse à quelqu'un, on a tendance à, pour retenir l'attention, à mettre en avant la chose qui retient le plus l'attention, qui capte le plus l'attention. Donc, si dans une journée, il y a un incident, on va tendance à mettre en avant l'incident, que ce soit des violences policières ou que ce soit des vitres brisées, par exemple, parce que c'est ce qui retient le plus l'attention par rapport à une journée qui se sera déroulée tranquillement par ailleurs. Et voilà, je pense que c'est un problème simplement assez classique et qui n'est pas, pour le coup, très spécifique
Qui dépend justement peut-être du style de média. C'est-à-dire BFM, c'est de l'info continue. À Mediapart, vous ne faites pas d'info continue. Sur France Culture, on n'en fait pas non plus. Mais du coup, évidemment, il y a un style qui modifie l'agenda éditorial de BFM. En revanche, BFM a, par exemple, largement donné la parole aux Gilets jaunes. Ils ne l'ont pas fait comme dans Les Pieds sur Terre de France Culture. Vous avez fait de grands papiers également sur les Gilets jaunes. Chacun l'a fait à sa manière. On ne peut quand même pas dire, Edwy Plenel, que les médias aient été aux ordres dans cette crise.
Mais je n'ai pas dit ça. Vous m'avez poser la question de pourquoi il y a une crise de confiance. J'essaye de vous donner la clé sur la longue durée, au-delà des gilets jaunes. Nous vivons la troisième révolution industrielle de notre modernité. La première, c'était la machine à vapeur. La deuxième, c'est l'électricité. La troisième, c'est le numérique. À chaque fois, c'est un moment d'extension de l'information, la Révolution française, les révolutions parlementaires et les changements parlementaires républicains à la fin du 19e, et là maintenant ce que nous vivons. À chaque fois, sourd une demande démocratique et une nouvelle figure du peuple et de la foule. À chaque fois, il y a le meilleur et le pire. Les nouvelles à la main de la Révolution française, la presse antisémite et la presse de qualité et la presse xénophobe pendant la Troisième République, et ainsi de suite. À chaque fois, nous sommes requis par cette question démocratique. Je redis que dans ce moment-là, les journalistes doivent avoir un seul fil à plomb. Ils sont au service du public, ni de ceux qui les emploient, ni du pouvoir politique où qu'ils travaillent, premièrement. Et deuxièmement, leur seule boussole doit être la production d'informations. C'est ça notre travail. Et aujourd'hui, la révolution technologique fait que désormais, n'importe quel citoyen n'a plus besoin de votre micro, n'a plus besoin de mon stylo, n'a plus besoin de ma caméra pour parler, pour s'exprimer, pour défendre son opinion. Donc, je l'ai dit depuis le début, quand, sortant du monde, 25 ans de presse traditionnelle, j'ai créé Mediapart, j'ai dit, la révolution, il y avait une grande panique par rapport à cette révolution. Déjà, le journaliste disait déjà, les réseaux sociaux nous dépassent, etc. Je disais, c'est une bonne nouvelle, ça remet le journalisme à sa place, à sa juste place, produire des informations. J'ai toujours défendu ça. Le commentaire est libre ensuite, mais le commentaire, nous n'en sommes pas propriétaires.
C'est quand même très paradoxal, parce que vous dites, il y a une révolution, aujourd'hui, tout le monde peut diffuser de l'information, et on le voit bien au travers
des opinions. Bien sûr. J'ai souligné des opinions d'abord, mais ça peut être des informations.
Voilà.
Mais c'est sur la figure, excusez-moi, pour que vous compreniez bien, quand j'ai commencé dans ce métier il y a 40 ans, puisque vous m'avez demandé des noms tout à l'heure, la figure du journaliste éditorialiste, commentateur, la figure qui s'appelle, version effroyable pour moi, Éric Zemmour, qui s'appelle Natacha Polony, qui s'appelle des gens que je n'ai jamais vu produire, je le redis, une information de leur vie. Elle n'existait pas il y a 40 ans.
Dans notre métier. Pas
mais non,
Jean-François Revel, il n'existait
mais,
pas.
Mais Jean-François Revel, il faisait un édito tout seul et je vous, mais, vous oubliez une chose. Mais vous oubliez que Jean-François Revel, il a fait l'enquête sur l'affaire Ben Barka.
Mais non, mais j'ai pas
avec
dit que Jean-François.
Jean-François Revel, j'essaye de vous dire que moi-même, je fais, mais moi-même, je fais des partis pris sur Mediapart. Je disais que toute figure légitime pour faire des commentaires avait d'abord fait un travail de journaliste, d'enquête, de reportage. On jugeait d'abord un journaliste sur sa capacité à faire des brèves, sur sa capacité à recouper, sur sa capacité à vérifier. Il ne s'autorisait pas que de lui-même. Cette nouvelle figure où on fait un petit peu de classe préparatoire et on arrive et on dit « moi je sais tout sur tout et je vais commenter tout sur tout en disant que je suis journaliste ».
À Éric Zemmour, c'est mais, de ne pas avoir fait ses classes,
mais
par exemple.
Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour moi, ça, ce n'est pas notre métier. Et que ça, ça abîme notre métier, quel que soit le degré de popularité de ces gens.
Considérons donc que cela abîme notre métier. La seule chose que je ne comprends pas, puisque vous avez aujourd'hui la possibilité, vous citoyens, de faire un Facebook Live, comme le fait par exemple Éric Drouet, et de donner son point de vue, ses commentaires, ses informations, pourquoi s'en prendre à BFM, alors que finalement, chacun a aujourd'hui un média, j'allais presque dire, plus puissant que BFM, puisque Facebook peut être regardé par n'importe qui.
Je pense que ça, il faut demander aux gilets jaunes. Moi, je ne me prends pas à BFM. Encore une fois, moi, BFM, je pense qu'il y a des confrères qui travaillent très, très, très rigoureusement avec une grande indépendance. J'ai d'ailleurs fait l'interview de Monsieur Macron qui a montré sa crispation le 15 avril avec Jean-Jacques Bourdin de BFM. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, ça, il faut poser la question. Alors, pourquoi la cible de leur colère est-elle BFM?
Autre question, Edwige Plenel. Aujourd'hui, le journalisme, comme vous l'avez dit, traverse une crise importante. Il y a par exemple Mondadori, qui est aujourd'hui racheté par ReWorld. Mondadori, c'est un groupe qui produit des titres de qualité. Autrement dit, les journalistes, en tant que masse laborieuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, les journalistes sont aujourd'hui une population qui est extrêmement précarisée, paupérisée, avec toute une série de situations. Est-ce que ça n'est pas paradoxal que les gilets jaunes, qui se plaignent de la précarité, de la paupérisation, ne sentent pas qu'il y a finalement un destin commun, malheureusement, entre journalistes et eux?
Bien sûr, c'est aux journalistes de se présenter comme des travailleurs de l'information, de défendre leur indépendance, de le montrer. Mais non, mais vous ne pouvez pas dire aux gens « la confiance m'est acquise ». Moi, je vais soutenir des journalistes si je vois qu'ils se battent, si je vois qu'ils se battent pour leur indépendance, si je vois qu'ils se battent pour la rigueur de leur métier, pour l'utilité démocratique de leur métier. Moi, je me bats. Je suis gilet jaune, ouvrier, travailleur des cheminots, de la SNCF, syndiqué, etc. Eh bien, les journalistes doivent se battre aussi. Ils doivent se battre, ils doivent montrer leur utilité sociale et démocratique. Ils ne sont pas au-dessus de ceux qui les légitiment, qui sont le public. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai toujours dit ça et nous continuerons à le faire avec Mediapart.
Un mot de conclusion, Arnaud Esquerré.
Non, juste parce que Edwige Plenel parlait des révolutions technologiques. Je trouve que s'il y a un point de comparaison à prendre, ça serait les débuts du cinéma, parce qu'au début du cinéma, on a eu très peur du cinéma qui fascinait et qui était supposé hypnotiser les foules. 20 ans après les débuts du cinéma, qui est né dans les années 1890, on a mis en place une censure, et la censure, elle visait en fait d'abord les problèmes politiques, c'est-à-dire le fait qu'on ne représente pas de grève, on s'inquiétait du bolchevisme et des représentations du bolchevisme, etc. Et donc je pense que c'est peut être un point de référence par rapport à cette inquiétude qu'on a. Et le cinéma montrait les foules. C'était les premiers films.
Des foules qu'on ne qualifiera pas pour ne pas remettre. Vous vouliez dire.
Non, j'ai dit, il y a toujours, face à des révolutions technologiques qui appellent des révolutions démocratiques, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une grand-peur de ceux qui sont protégés, qui est cette grand-peur des possédants ou des bien-pensants face justement au peuple. Le peuple, on ne lui demande pas d'être beau, encore une fois. On ne lui demande pas d'être sympathique. Simplement, il faut écouter ce qu'il porte comme question, encore une fois, les gilets jaunes, dans lesquels il peut y avoir des fascistes, des extrémistes, de l'extrême droite. Bien sûr, dans un pays qui est sous l'hypothèque de l'extrême droite depuis près de 40 ans, et où il y a, elle fait les scores qu'elle fait, et la politique d'Emmanuel Macron est en train de lui faire toujours la courte échelle, il est normal qu'elle soit présente. En revanche, il faut écouter les questions posées, je le redis, questions sociales, questions de l'égalité. Profondément, c'est un mouvement pour l'égalité démocratique et sociale.
Voilà, et donc je convie nos auditeurs à continuer à lire Mediapart, à écouter France Culture aussi, puisque toutes ces questions que se posent les Gilets jaunes et aussi le reste du peuple français ont été traitées, continueront à l'être. Edwige Plenel, La valeur de l'information, c'est votre dernier ouvrage, Arnaud Esquéré. Le vertige des faits alternatifs, c'est votre ouvrage également publié aux éditions Textuelles.